J'aimerais parler sur les 10 commandements. Dans Exode, chapitre 20, le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Amen. Les 10 commandements, ils apparaissent donc alors que Moïse, appelé par Dieu, est allé en Égypte et qu'il a annoncé la libération du peuple après les 10 plaies d'Égypte. Le peuple est sorti vainqueur de l'Égypte et libéré de l'esclavage. Ça se passe donc 3 mois après la sortie d'Égypte. Ils sont arrivés jusqu'au mont Sinaï. Dieu avait dit à Moïse, vous irez sur le mont Sinaï et c'est là que vous m'adorerez. Donc Moïse a exécuté les paroles de Dieu. Ils sont arrivés jusqu'au mont Sinaï. Là, ils ont reçu les paroles, les 10 commandements. Moïse est monté sur la montagne et dès le début, des 10, alors en hébreu, c'est les 10 paroles. Nous, on a traduit en français les 10 commandements, mais dans l'hébreu, c'est les 10 paroles. Et au verset 1, dès le début, Dieu rappelle qui il est pour son peuple. Verset 1, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà, Dieu rappelle qu'il est le libérateur. Donc le peuple était dans l'esclavage et Dieu a libéré son peuple. Et ce soir, nous pouvons nous rappeler que Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché et qu'il est notre libérateur. Et Dieu aime le rappeler, « Je suis votre libérateur ». Il est en train de le dire au peuple de Dieu. Donc rappelons-nous aussi, parce que nous avons tendance à l'oublier, nous considérons que la grâce finalement elle est normale, on s'habitue à la grâce de Dieu. Mais rappelons-nous comment nous étions égarés dans le péché, comment nous étions dans l'esclavage du péché, et que Dieu nous a fait grâce, nous a ouvert les yeux et nous a libérés de cette servitude. Le premier des 10 commandements est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. » Le peuple d'Israël avait connu 400 ans d'esclavage en Égypte, et nous savons que en Égypte, il y avait le polythéisme, c'est-à-dire que les Égyptiens adoraient une multitude de dieux. Et forcément que les Hébreux ont été en contact avec ces idoles. Bien sûr, ils conservaient dans leur cœur le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel et de la terre, qui a créé le ciel et la terre, mais ils étaient, entre guillemets, contaminés par une sorte de polythéisme autour d'eux. Ils sont donc sortis de l'Égypte, ça c'est une chose, et pour nous c'est l'image que Dieu nous a délivrés, nous sommes sortis du monde, mais il y avait encore tout un processus pour que le monde qui était attaché à leur cœur, ils sortent de leur vie. Et toutes ces pensées d'idolâtrie, tout ce qu'ils avaient connu en Égypte, eh bien, ils devaient faire une croix dessus et maintenant, uniquement, se confier dans un Dieu unique et non pas les différents dieux dont ils avaient entendu parler en Égypte. Et ça, c'est une autre étape, c'est faire sortir de leur cœur tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il y en avait des choses accumulées à travers toutes ces années d'Égypte. Le peuple, malheureusement, ça va se confirmer par la suite. Si vous lisez le livre de l'Exode, vous verrez que malgré qu'ils servaient Dieu, de nombreux Israélites conservaient un attachement à des idoles. Peut-être ça nous étonne aujourd'hui, mais c'est un fait qui revient à de nombreuses reprises, presque dans tout l'Ancien Testament. On voit que les Israélites, certains, pas tous, mais restaient attachés à des faux dieux. Et ça nous parle de compromis. Le peuple avait des faux dieux dans leur maison. Je pense à l'histoire de Gédéon, par exemple. Lorsque Gédéon est appelé, donc il y a l'ange de l'Éternel qui se révèle à Gédéon, qui lui donne cette grande mission d'aller détruire le peuple de Madian. Entre parenthèses, Madian, ils étaient nombreux comme le sable au bord de la mer, et lui, il avait une armée très limitée. Mais bon, avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu, donc il faut y aller par la foi. Mais la première chose que fait Gédéon, ce n'est pas d'aller au combat tout de suite. Il va commencer par aller dans la maison de son père, et il y a un détail important dans la maison de son père. Il y va de nuit, et le texte dit qu'il va renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Donc dans la maison de son propre père, qui était croyant, donc il connaissait l'Éternel. Il adorait à Jérusalem, il y avait les cantiques, il y avait l'adoration, il y avait les sacrifices, il faisait tout. Mais ça l'empêchait pas d'avoir à côté, dans son jardin, un autel à Baal, chose qui était condamnée dans la parole de Dieu, qui était contraire à la parole de Dieu. Donc Gédéon, donc saisi par l'Esprit de Dieu, et c'est là où on voit que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut plus vivre dans le compromis, on ne peut plus accepter la pensée d'autres dieux. On a chanté tout à l'heure « Nul autre nom que le nom de Jésus ». Gédéon, saisi par l'Esprit, il dit « Mais moi, je ne peux pas accepter un Baal dans ma maison » et il va carrément renversé, c'est-à-dire il va briser la statue. Il y avait aussi un pieu sacré, donc deux idoles. L'idole à Baal, un faux dieu, et un pieu sacré, qui était une autre idole, qui s'appelait Astarté, qui était le pendant féminin de Baal. Donc il va tout détruire. Et en fait, là-dessus, il va brûler une offrande à l'Éternel pour dire « C'est terminé, avec tout ce qui a été fait dans le passé, je tourne la page, et maintenant je veux servir le seul vrai Dieu. » Voilà une position courageuse. Et voilà la position d'un enfant de Dieu. Donc, Gédéon va bâtir un autel à l'Éternel, il s'entoure de 10 hommes, et il va, avec ces 10 hommes, commencer à préparer le plan et réunir des gens autour de lui. Mais le lendemain, lorsque les gens voient ce qui a été fait, c'est-à-dire ils passent devant la maison du père de Gédéon, et ils voient l'autel renversé, ils demandent « Mais qui a pu faire une chose pareille ?» Et le père dit « Est-ce à vous de venir au secours de Baal ? Qu'il plaide lui-même sa cause, et ça sera le nom de Jérubaal, que Baal combatte. » Parce que Gédéon a eu le surnom de Jérubaal. Et donc Gédéon a réuni autour de lui des hommes. Vous savez comment Dieu a diminué son armée qui était de 30 000 à l'origine, il a quand même réussi à trouver 30 000 personnes. Dieu les a fait passer à 10 000, et puis de 10 000, ils sont passés à 300. Et c'est seulement avec ces 300 hommes que Gédéon, et surtout qu'il était rempli de la foi, Et il y a un grand enseignement dans le livre de Gédéon qui dit que ce n'est pas dans la force ni dans le nombre, mais c'est dans la foi et l'obéissance que la victoire est remportée. Alors nous, nous sommes toujours attirés par le nombre et la force. Mais Dieu nous montre partout dans sa parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il vaut mieux deux ou trois personnes remplies du Saint-Esprit que 50 qui sont à côté, qui cherchent pas Dieu, qui font n'importe quoi. Donc, il fallait du courage, il fallait de la détermination, mais avant de remporter cette grande victoire avec seulement 300 hommes, il fallait d'abord faire un grand ménage dans la vie de Gédéon. Il a commencé par enlever les faux dieux. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est les faux dieux ? Eh bien, c'est tout ce à quoi notre cœur s'attache et qui n'est pas Dieu. Et il y en a des choses. Dans ce monde, il y a les dieux de la musique. Les dieux de la musique, alors, c'est les concerts. Il y a des gens qui sont prêts à payer un billet pour aller à l'autre bout de l'Europe ou même aux États-Unis pour voir un chanteur. C'est leur idole, c'est leur dieu. Ils l'ont mis en premier dans leur vie. Il a une place trop importante. Ça, c'est une idole. Les idoles du sport, c'est pareil. Ils sont prêts à payer, à faire des déplacements parce qu'ils veulent voir leur idole sur le stade. Les dieux de la finance, Jésus en a parlé, c'est Mammon. Le dieu Mammon, c'est une idole. Mammon, c'est quoi ? C'est le dieu de l'argent. L'argent, il a son temple. En France, ça s'appelle la bourse. Eh bien, c'est là que les gens vont, entre guillemets, adorer l'argent. Alors, 1 Timothée 6,10 nous dit ceci, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés. » Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Ce type d'idole, il vous possède l'esprit, le cœur, l'âme. Ils se sont égarés loin de la foi. Moi, je comprends que c'était des gens qui étaient dans la foi. Un petit peu comme le peuple de Dieu, ils étaient bien dans la foi. Mais ils ont laissé une idole les subjuguer. Ça a pris leur esprit et finalement ça les a possédés. Eh bien, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors qu'ils auraient dû entretenir la foi, conserver la foi, s'entretenir de la foi et mettre l'argent à sa place. C'est-à-dire, l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et si l'argent devient une idole, alors c'est lui qui nous conduit. Et ça n'était pas la volonté de Dieu. Donc, Gédéon a pris cette position et nous devons faire de même, frères et sœurs, c'est-à-dire enlever de notre cœur tout ce qui a pris la place que Dieu doit avoir, c'est-à-dire qui prend plus de place que Dieu, qui a plus d'importance que Dieu. Si vous mettez Dieu, par exemple, à la dernière place et qu'il y a beaucoup de choses avant, hein, on met le temps pour le Seigneur, on le met, mais si on a le temps, on priera. Vous voyez, déjà, là, il y a un problème. Si on a le temps, on priera, non. Non, non, non. Il faut vraiment que Dieu, c'est incontournable. On ne peut pas dire si j'ai le temps, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont prioritaires par rapport à Dieu. Non, il faut que Dieu ait sa place, sa bonne place, et toutes les autres choses vont être secondaires. Et elles vont. Vous verrez que vous aurez le temps de les faire. Si vous mettez Dieu à la première place, vous aurez le temps de faire les autres choses. Mais si vous dites, si j'aurai le temps, je prierai. Si j'ai le temps, je lirai la Bible. Si j'ai le temps, je prendrai un moment avec le Seigneur, vous verrez que vous n'aurez jamais le temps parce qu'il y aura toujours pour vous des priorités. Eh bien, tout cela, il faut les renverser et mettre Dieu, comme Gédéon l'a fait, à la première place. Les poteaux sacrés, les faux dieux de Baal, tout ça, ça disparaît et maintenant, c'est Dieu qui est à la première place. Voilà, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ensuite, deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Il était interdit de représenter Dieu, c'est-à-dire d'essayer de le faire sous forme d'idole, de statue. C'est forcément rabaisser Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit, on ne peut pas le représenter sous une forme humaine ou sous une forme quelconque. Et c'est une erreur de représenter des statues, et ça se fait même dans l'Église catholique, où il y a toutes sortes de saints, des représentations de Christ sous forme de statues. Mais nous avons un Jésus qui est vivant. Quelque part, C'est une offense de le représenter en forme de statue, parce qu'une statue, c'est mort. Une statue, ça ne bouge pas. Or, Jésus est réellement vivant et tout-puissant. Donc, vous voyez, on fausse un peu l'image de Christ. Nous adorons, nous, un Dieu qui est tout-puissant. On n'a pas besoin d'une image. On a besoin de développer la foi, de croire en lui, de fermer les yeux et d'ouvrir les yeux de la foi et de croire qu'il est présent. Mais on n'a pas besoin de statue, même dans ce lieu, on n'a pas besoin de représentation, de saint, de Jésus, de tel ou tel personnage, ou même de Dieu. Toutes ces choses-là, nous n'en avons pas besoin. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, le texte. Il dit « car je suis un Dieu jaloux ». Ben, ça n'a rien à voir avec notre jalousie. Parce que nous, quand on est jaloux, c'est un péché. Mais quand il est dit que Dieu est jaloux, ça veut dire que il n'accepte pas d'être avec un autre à équivalence. Il n'accepte pas. Pas de concurrence. C'est-à-dire, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu aime qu'on l'adore lui et lui seul. Donc tout ce qui est représentation, tout cela, eh bien, ça doit disparaître. Vous savez, des fois à la maison, il y en a qui ont des Bouddhas, il y en a qui ont des statues, il y en a même qui ont des masques africains, ils mettent ça sur les murs et tout. Mais en réalité, derrière tout ça, c'est mauvais. Priez le Seigneur pour qu'il vous ouvre les yeux et que vous voyez les choses spirituelles. Parce que si Dieu est un Dieu jaloux, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de masque africain et toutes ces choses-là, qui sont d'ailleurs spirituellement toujours utilisées dans l'occultisme, toutes ces choses. Tout ça, ça disparaît. Remarquez le contraste entre la punition, parce que Dieu dit qu'il punit les péchés sur la troisième jusqu'à la quatrième génération, mais en contraste, il dit que sa bénédiction, elle va sur 1000 générations. Donc d'abord, Dieu est un Dieu de bénédiction et un Dieu de grâce. Mais après, c'est aussi un Dieu qui juge, et c'est aussi un Dieu qui reprend et qui sanctionne. Mais si vous regardez le texte, Dieu est davantage disposé à faire grâce et en abondance que de punir et de sanctionner. Donc la première image de Dieu que vous avez, c'est quoi ? Est-ce que c'est Dieu qui punit ? Est-ce que c'est Dieu qui vous juge ? Ou est-ce que c'est Dieu qui vous fait grâce ? Parce que dans la Bible, la première image de Dieu, c'est Dieu qui fait grâce. 1000 générations. Regardez l'écart entre 1000 et 4. C'est énorme l'écart. 1000 générations. Donc retenez que la grâce, elle surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. 1000 générations. Dieu est un Dieu de grâce. Et gardez bien cette vision de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu vous aime et que Dieu a un plan pour votre vie et qu'il veut faire grâce. Maintenant, il va sanctionner, il va punir le péché, celui qui s'obstine. Mais la première vision de Dieu, c'est un Dieu d'amour. D'ailleurs, vous connaissez le passage le plus célèbre, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il commence pas par dire que Dieu a décidé de juger le monde. Il commence par dire « Dieu a tant aimé le monde, 1000 générations, la grâce. » Et ensuite, il a donné son Fils unique afin que l'on croie. Et quiconque croit, eh bien, est pardonné de ses péchés. C'est la vision que nous devons avoir de Dieu. C'est la vision que Christ nous a révélée de Dieu. La loi est venue par Moïse, mais la grâce, encore les 1000 générations, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a voulu mettre en avant quoi ? Non pas le jugement de Dieu, mais d'abord la grâce de Dieu. Et ceux qui refusent la grâce de Dieu, oui, il y a le jugement. Mais d'abord, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'était pour le deuxième commandement, pas d'image taillée, pas de représentation de Dieu ou de ce qui se passe, même des anges, il y en a qui ont des... Il y en a même qui ont l'archange Michel. Par exemple, ils prient l'archange Michel, par certains même. C'est tout à fait à côté de la parole de Dieu. Et tout cela est mauvais. Troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le nom de Dieu est saint. Ça veut dire mis à part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le nom de Dieu d'une manière légère. Des fois, on est un petit peu léger avec les choses de Dieu, on parle de Dieu à tort et à travers, mais les Juifs avaient un tel respect pour le nom de Yahvé, l'Éternel, que quand ils arrivaient à lire ce nom-là, ils ne prononçaient même pas le nom de Dieu, ils disaient Adonai. Ils respectaient, ils vénéraient le nom de Dieu, le fameux tétragramme qu'on a traduit par Yahvé, c'est YHWH. Tétragramme, ça veut dire les quatre lettres sacrées. Donc quand les Juifs, ils voyaient arriver les quatre lettres sacrées, ils disaient un autre mot, Adonai. Seigneur, pour être sûr de ne pas offenser le nom de Dieu ou de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Et on sait que le nom de Dieu, il est très riche dans la parole de Dieu. Dieu s'est révélé comme Yahvé Jireh. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, Yahvé Jireh ? L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a pourvu à notre salut. On voit toujours, en fait, une application du nom de Dieu. L'Éternel pourvoira. Eh bien, si vous regardez vers Christ, il a pourvu à notre salut. Est-ce que vous vous rappelez quand Dieu, quand est-ce que ce nom a été donné à Dieu, Yahvé Jireh, avec Abraham et Isaac qui est une figure de Jésus-Christ. Isaac qui devait être offert en sacrifice, mais Dieu a pourvu par le bélier qui a pris la place d'Isaac. Vous voyez l'image déjà de Christ avec l'Éternel qui pourvoira. Yahvé Rapha. Rapha, c'est de l'hébreu. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Et on sait que Jésus, quand il est venu sur terre, il a guéri les malades. Yahvé Nissi. La bannière. Et Jésus, c'est comme la bannière pour les peuples. C'est la bannière du salut. Yahvé Shalom. Ah, il est bien celui-là. Yahvé Shalom. Shalom. La paix. L'Éternel, paix. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui procure la paix surnaturelle et qui garde nos cœurs alors qu'il y a la tempête, il y a la tourmente qui vient dans notre existence. Eh bien, surnaturellement, nous sommes gardés dans une paix que nous ne pouvons pas expliquer. C'est la paix de Dieu et c'est Christ qui nous communique sa paix. Il est Yahvé Roï, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger, Jésus, c'est le bon berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Yahvé Tsevaoth, l'Éternel des armées, il combat pour nous. Il est notre victoire. Et Jésus, c'est vraiment le chef des armées. Yahvé Tsidkenu, notre justice. Jésus, c'est notre justice. Et Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors on peut dire que Jésus est aussi là ce soir. Ça, c'était le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et nous devons prier les noms de Dieu, honorer le nom de Dieu. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos. Alors, Dieu a voulu 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et qu'est-ce que c'est que ce jour de repos? On l'a appelé le sabbat en hébreu. Et ce jour de repos de sabbat était assez strict dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas travailler le jour du sabbat. Il fallait se reposer, mais surtout se reposer pas pour ne rien faire, mais pour profiter de ce temps pour chercher Dieu et l'honorer. C'est devenu le jour qui est réservé pour Dieu dans l'adoration, dans la reconnaissance, dans la louange. Et quand les premiers chrétiens ont commencé à se rassembler, au début, ils étaient tous d'origine juive, donc ils continuaient à aller au temple et à vivre le sabbat, mais rapidement, ils ont célébré le jour de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le dimanche. Et c'est le dimanche qui est devenu le jour du repos, le jour où on le consacre à Dieu. Et c'est important de conserver cela. Vous avez vu que dans la société, petit à petit, le dimanche est grignoté tout le temps par le travail, par les activités, les festivités, les familles, tout. Le dimanche, il est mangé toujours par les activités. Alors que nous, chrétiens, nous devons mettre ce dimanche à part dans notre agenda. C'est un jour réservé pour le Seigneur. C'est la priorité. pour honorer Dieu. Alors aujourd'hui, ben, certains se passent facilement, bon, c'est pas très grave, hein, un culte en moins, on se passe facilement du dimanche. Et quand on est un peu léger et qu'on préfère aller à la pêche ou à se promener ou faire autre chose et puis se divertir le dimanche, alors que le dimanche c'est le jour du Seigneur, si on est trop léger, ben, ça peut pas plaire à Dieu. Et c'est qu'on n'a pas réalisé que le dimanche c'est un rendez-vous qu'on a avec Dieu. C'est un jour à part, c'est un jour que Dieu veut sanctifier pour qu'on puisse passer du temps avec lui. Et si on prend du temps pour Dieu, il y a quelque chose qui se passe, et je l'ai souvent vu, quelquefois des frères et sœurs me disent « mais je suis tellement fatigué, j'ai besoin de me reposer ». Et en fait, on croit qu'on va se reposer en restant à ne rien faire. Et en réalité, on est plus reposé quand on vient dans la présence de Dieu parce qu'on est renouvelé spirituellement, tandis que là, vous allez vous reposer à la maison. Mais en réalité, vous allez regarder un truc sur Internet, ça va vous activer l'esprit, ça va vous faire tourner l'esprit, vous allez avoir votre esprit qui va tourner. Tandis que dans la présence de Dieu, c'est le vrai repos de l'âme, c'est le renouvellement, le rechargement des batteries spirituelles. Il y a l'esprit qui agit dans la communauté et il n'y a pas la même chose quand on ne fait rien, qu'on reste à ne rien faire. Et même c'est une erreur de croire qu'on va être mieux reposé. On est mieux reposé quand on est dans la présence de Dieu, en fait. Mieux restauré spirituellement que quand on se dit bah, « je suis fatigué, je vais rester à la maison ». Et puis finalement, on n'est pas reposé, on est tout autant fatigué que si on avait travaillé. Donc Dieu, quand on l'honore et qu'on dit « je suis fatigué, mais je viens dans la présence de Dieu », en fait, on est renouvelé et on n'a pas perdu du temps parce que Dieu nous fait gagner du temps si on obéit à sa parole. C'est-à-dire que Dieu voit qu'on l'a mis à la première place, qu'on l'a honoré, et on pensait qu'on n'aurait pas le temps, mais Dieu nous permet de gagner du temps. Et tout ce qu'on voulait faire, on le fait. Tandis que quand on le fait, on met pas Dieu à la première place, on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut faire, on n'arrive jamais à finir, et on est frustré. Parce que d'abord, on n'a pas obéi à Dieu, on ne l'a pas mis à la première place. Donc, soyons sérieux, mettons le dimanche comme un jour à part, c'est un jour particulier, c'est pas un jour qu'on doit prendre à la légère, c'est un jour que Dieu a voulu pour qu'on l'honore, qu'on le mette à part dans notre agenda, et c'est pour lui. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Ça, c'est l'importance de la famille. Parents, priez pour vos enfants, pour qu'ils soient touchés par la grâce de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants, nous devons honorer nos parents, prier aussi pour eux, que Dieu les bénisse, et prendre soin de nos parents. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et dans le contexte, il s'agit ici des veuves, si quelqu'un n'a pas soin des siens, donc les parents âgés, la maman qui est veuve, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc la famille, c'est important. La famille, c'est de Dieu. La famille, c'est ce que nous devons, dont nous devons prendre soin. Et remarquez que c'est le seul commandement. Il y a 10 commandements, mais il y en a un qui est assorti avec une promesse. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc il y a une promesse particulière pour ceux qui honorent leur père et leur mère. Donc pensez à vos parents, priez pour vos parents, et puis ben, soutenez-les s'ils sont dans le besoin, s'ils sont en difficulté. Ben, quand ils deviennent très âgés, ben, il faut être là avec eux et les accompagner. Tu ne tueras point. Sixième commandement, traduit dans les versions modernes, tu ne commettras point de meurtre. La vie, c'est sacré. Et à l'époque, Dieu, il y avait la peine de mort. Quand quelqu'un tuait une personne, comme un meurtre, eh bien, il était condamné à mort. Et nous savons que la vie, c'est précieux et qu'on ne doit pas, bien sûr, commettre de meurtre. Alors, bien sûr, il y a le parallèle spirituel parce qu'on peut tuer avec la langue. Jérémie 18, verset 18. Ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à ces discours. Voilà Jérémie qui est un prophète qui annonce des choses difficiles et le peuple ne veut pas des paroles de Jérémie et il dit « mais tuons-le avec la langue ». C'est-à-dire que par la langue, on peut faire tellement de mal à quelqu'un qu'on peut le détruire. Et même certains se sont supprimés, se sont jetés d'un pont, se sont jetés sous un train après des paroles mauvaises qu'on a jetées sur leur vie. Donc les paroles, c'est vraiment une œuvre de destruction. Ça peut être à double tranchant. Et finalement, nos paroles révèlent notre cœur. Si vos paroles sont comme de l'acide, si vos paroles sont dures, c'est que dans le cœur, il y a une souffrance, il y a un malaise qui doit être guéri par Dieu. Mais sachez que vos paroles, si votre cœur n'est pas guéri, elles vont faire du mal et elles vont détruire les autres. Or, la Bible nous dit « ne maudissez pas, mais bénissez ». Et nous devons apprendre à bénir avec notre bouche. Et bénir, c'est quoi ? C'est dire du bien. Dire du bien sur notre frère, sur notre sœur, dire du bien sur notre église, dire du bien sur notre conjoint, dire du bien sur nos enfants, c'est ça bénir. Maudire, c'est critiquer, c'est casser, c'est juger, c'est dire des mauvaises choses sur les gens. Et tout cela, ça doit disparaître. Septième commandement, tu ne commettras pas l'adultère. L'adultère, bien sûr, c'est un péché qui revient beaucoup dans la parole de Dieu, c'est un péché grave qui détruit les familles. C'est même très difficile de pardonner quand un conjoint a vécu l'adultère, parce que c'est comme si l'alliance a été brisée, l'alliance a été rompue, et c'est une faute lourde. Et attention, frères et sœurs, parce qu'on voit des croyants qui sont tombés dans l'adultère dans la Bible, et souvent, ça vient par des petites négligences. David, lui, il a dit une petite négligence. Il n'est pas parti au combat, c'était le temps du combat, il n'est pas parti au combat. Il traîne sur la terrasse. Au lieu de chercher Dieu, de prier, il n'arrive pas à dormir, il va traîner sur la terrasse. Il va laisser ses yeux vagabonder. Tout ça, c'est des petites négligences. Et puis, ses yeux vont tomber sur Bathsheba, il va la convoiter. Et là, il ne va pas lutter contre le péché, mais il va laisser le péché faire son œuvre dans son cœur. Mais pour que le péché fasse son œuvre dans son cœur et qu'il arrive jusqu'à l'adultère, il y a eu des petites négligences qui se sont empilées les unes sur les autres et qui ont fait qu'il a basculé. Pourtant, David sait très bien que c'est mal l'adultère. David sait très bien que ça ne plaît pas à Dieu. David, il aime Dieu. David, il veut servir Dieu. David, on sait qu'il a un cœur pour Dieu. Mais les petites négligences, la Bible dit, c'est comme les petits renards qui vont détruire la vigne. C'est-à-dire, on laisse rentrer des mauvaises choses, une petite mauvaise chose, mais à elle toute seule, elle ne va pas renverser une personne. Mais deux, une troisième et une quatrième, ça commence à faire chanceler et à basculer du mauvais côté. Donc, même si on est David, c'est-à-dire David, c'est le roi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, il est proche du Seigneur. Même si on est un David, on doit être vigilant. Il n'y a pas d'exception. On doit être vigilant tous les jours, ne pas laisser les petites négligences. C'est pas parce que vous êtes arrivé, ça y est, Dieu m'a délivré, je suis maintenant marié, voilà, j'ai ma femme et tout, ça m'arrivera jamais. On doit être vigilant tous les jours, veiller aux négligences. Et Jésus donne un avertissement dans Matthieu 5, 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Voilà le problème de la convoitise, ça commence par les yeux, ça commence par des négligences, ça commence par désirer une autre femme que sa femme ou un autre homme que son mari, des petites négligences, et l'adultère, il a déjà commencé dans le cœur, elle n'a pas encore fait l'adultère, la personne, mais elle a déjà une négligence qui fait que elle est prête à basculer à un moment donné à cause de sa négligence. Donc veillez constamment, veillez à ce qu'il y a devant vos yeux. Vous savez, les divertissements, la légèreté, c'est des petites négligences. Mais ces petites négligences répétées, finalement, ça prédispose le cœur à basculer, à pécher. Et le mariage, ça doit rester une union sacrée, fidélité, sérieux, engagement. Alors, on doit tout faire pour rejeter toute pensée d'adultère et veiller à toute négligence. Et ne croyez pas que vous serez plus heureux ou que ce sera plus facile ou que ce sera mieux avec tel autre ou tel autre, parce qu'il est plus gentil, parce qu'il parle bien, parce qu'il est, il vous offre des fleurs ou il vous offre du chocolat et vous êtes content. Tout cela, c'est superficiel Et c'est faux. Donc, tu ne commettras point l'adultère, c'est quelque chose qu'il faut rejeter. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Eh bien, c'est le désir de voler tout ce qui n'est pas à nous, le piège de la convoitise, le piège de vouloir posséder toujours plus. Il y en a un qui en était animé, c'est Judas. Judas, il volait dans la bourse des disciples, il dérobait, il était voleur. Eh bien, ça a généré en lui le désir, à un moment donné, de livrer Jésus. Là aussi, un péché non confessé, volé dans l'argent qui était mis pour l'œuvre de Dieu. Satan est rentré dans son cœur, il lui a donné la pensée de livrer Jésus, et puis finalement, Satan a trouvé l'accès de son cœur, et Judas a choisi la voie de la mort. Tu ne déroberas point. Alors, c'est vrai qu'il a dérobé, mais voyez que derrière le vol, spirituellement, vous vous mettez en porte-à-faux par rapport à Dieu, mais en même temps, vous ouvrez un accès au diable. Et il a un droit sur votre vie pour vous pousser au mal et à pécher. Neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est-à-dire que nous devons dire la vérité et non pas parce que c'est un ami ou parce que c'est une personne, alors on va essayer de la sauver et de témoigner contre quelqu'un qui n'est pas peut-être une connaissance proche, et on va porter un faux témoignage. Non, nous devons maintenir la vérité, quand bien même nous allons perdre un ami, parce que c'est une des armures du chrétien. Paul l'appelle la ceinture de la vérité. Et si nous ne disons pas la vérité, les petits mensonges pour arranger nos affaires, si nous ne disons pas la vérité, en fait, on a une faille dans la cuirasse, et l'ennemi peut nous charger et il nous poussera au mensonge. Et vous savez que un petit mensonge, vous êtes obligé de faire un autre mensonge pour cacher le petit mensonge et puis un troisième mensonge pour cacher et en fait c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que le faux témoignage, les mensonges, tu ne porteras pas de faux témoignage. Et puis le dernier commandement, dixième, tu ne convoiteras pas. Si vous désirez toujours plus, c'est un piège sans fin parce que vous allez avoir ce que vous convoitez, mais il y a un vide à nouveau et vous allez convoiter autre chose. J'entendais des missionnaires qui disaient ceci, sont allés dans un endroit où il y avait des enfants qui n'avaient rien. Ils n'avaient rien, c'était vraiment très pauvre là où ils étaient allés. Mais ce qu'il a remarqué, c'est la joie qu'il y avait sur leur visage. Ils avaient une joie qu'il n'a pas vue en Europe. Alors qu'en Europe, on peut dire qu'ils ont tout. Ils ont l'abondance, mais ils n'ont pas la simplicité et la joie de vivre tout simplement, la joie d'être là. Eh bien, c'est vrai pour nous encore aujourd'hui, tu ne convoiteras pas, ne laissez pas les convoitises dominer sur votre vie. On a l'exemple de Géasi, lorsqu'il a vu Naaman partir avec son or, avec son argent, avec ses tuniques, il a couru après pour essayer d'en obtenir quelque chose. Mais pour lui, il convoitait donc de l'argent, de l'or et des vêtements. Il les a obtenus et il est allé les cacher chez lui. Mais dans 2 Rois chapitre 5, verset 26, alors qu'il va voir Élisée, Élisée a une révélation du Saint-Esprit. « D'où viens-tu, Géasi ?» Il dit « Je suis allé ni d'un côté ni de l'autre. » Entre parenthèses, il avait déjà convoité des choses qui n'étaient pas à lui et qu'il n'aurait jamais dû prendre. Mais pour couvrir son péché de convoitise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mentir. Vous voyez que quand vous êtes dans le péché, vous êtes dans le pétrin. Parce qu'à chaque fois, vous devrez mentir, trouver une solution pour vous en sortir. Je suis allé ni d'un côté ni de l'autre. C'était pas vrai. Et 2 Rois chapitre 5 verset 26, Élisée dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, puis des bœufs, puis des serviteurs, puis des servantes. La lèpre de Naaman sera attachée à Géasi. Ça veut dire que spirituellement, celui qui convoite, il se retrouve lépreux spirituel, il se retrouve contaminé dans sa vie spirituelle et il ne va pas avancer. Cet homme, Géasi, par sa convoitise, bien sûr, il a eu des biens matériels, mais il a amené la malédiction sur sa vie et sur sa famille. Et Dieu veut nous libérer de la convoitise afin d'être heureux avec ce que nous avons. C'est la victoire que Christ veut mettre dans nos cœurs. On va prier quelques instants. On a vu les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui, qui sont une richesse spirituelle, qui sont une réalité spirituelle que nous devons appliquer. Et nous devons nous efforcer d'être agréables à Dieu, de chercher ce qui lui plaît, de l'honorer, sachant que Dieu sait très bien que nous ne sommes pas capables de les accomplir parfaitement, mais il nous a envoyé son esprit, il nous a envoyé Jésus-Christ, il nous a envoyé son secours pour que nous puissions marcher à sa suite. Merci encore pour ta parole, pour ces 10 commandements qui sont un rappel de ce que tu attends d'une vie qui marche dans les voies de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, les méditer, nous voulons les repasser sur notre cœur, nous voulons veiller à notre voix, veiller à notre bouche, veiller à nos yeux, veiller à nos oreilles, afin, Seigneur, de faire ce qui te plaît, ce qui t'honore. Nous voulons mettre à part, Seigneur, un jour pour toi, comme les Hébreux pouvaient mettre à part le samedi. Eh bien, nous voulons consacrer ce dimanche, Seigneur, pour un temps de mise à part, pour être à l'écoute de ta parole, pour adorer notre Dieu, pour être de ceux qui servent et qui honorent l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons déraciner, enlever, ôter toute idole, tout compromis, toute statue, toute chose vaine qui se sont infiltrées dans nos maisons, dans nos foyers, afin que, Seigneur, tu sois notre seul Dieu. Nous ne voulons pas avoir d'autre Dieu devant ta face que toi. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu jaloux, le Dieu unique, qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Et nous voulons, Seigneur, nous confier en toi pour que tu aides chacun de nous à mettre en pratique ta parole afin de vivre ses commandements. Et nous nous attendons à ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.